Alors, ce que je vais essayer de vous décrire, c'est l'apparition, la première apparition de ce qu'on pourrait appeler la société humaine, et cela paraît donc au niveau de la deuxième génération des engendrements, puisque dans la première génération, il y a une seule... Je veux dire, lorsque Dieu demande à Adam, comment tu sais que tu es nu, tu as mangé, vous remarquez qu'on remarque rien, qu'on comprend rien dans cette histoire. Que, comment tu sais que tu es nu, tu as mangé. Et non, elle dit non, c'est la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné à manger. Et c'est le rôle de la femme de préparer à manger. Oui, plaidoyer. Hein. Mais tu m'as donné une femme, c'est pourquoi? C'est pour me faire à manger. Alors, ce qu'elle m'a fait à manger, j'ai manqué. Alors, il est jusqu'au verset. Voilà, Mazot Asita, Vatomer, Aïcha, Anachash Ishianis, alors c'est plus loin. Non, voilà, verset 12. Vatomer à Adam, Aïcha, Shernatata, il m'a dit, Hinatnani, Mina, et Zor. Alors, c'est un verset un peu plus loin. Sur ce verset, d'après, alors, même là, je dis, j'ai mangé et je mangerai. En plus de l'insolence. Attendez que je vous trouve si la Midrash est là. Non, il n'est pas ici, mais je vais vous montrer dans le Midrash Rava. Le Rav Shlag en particulier, dans une Agdama très célèbre, a expliqué « J'ai mangé sans mérite, mais je mangerai un jour avec mérite. » J'ai mangé et je mangerai. Vous voyez un peu l'insolence. C'est comme si vous voyez un gosse, un gamin, papa lui a dit, t'as pris les confitures. Il dit, non seulement j'ai pris, mais j'en prendrai. non, le Midrash est beaucoup plus sérieux que ça. Et alors, il y a un stade où on apprend à recevoir sans avoir encore mérité. Mais il y a un stade où finalement, on mérite ce que l'on reçoit. Alors, ça c'est un peu Kabbalah. Par conséquent, je ne veux pas trop analyser. Simplement pour vous donner une analogie. Le fait pour la femme de devenir mère, c'est relié au tikkun de cette faute qui avait été faite, bien qu'on ne connaisse pas encore le contenu qu'elle, dans le fait de recevoir sans avoir encore mérité. Et alors, simplement une autre indication. Vous verrez vous-même le texte, mais on verra ça à la fin de l'année. Dieu avait dit au premier homme, de tout arbre du jardin, mangez, tu mangeras. Par conséquent, y compris celui-là, puisqu'il y avait de tout arbre du jardin, mangez, tu mangeras. Mais l'erreur a été de manger l'arbre de la connaissance avant l'arbre de vie. Et l'ordre aurait été de manger l'arbre de vie avant l'arbre de la connaissance. Voilà, je prends une indication sur le. Ça veut dire, il arrivera un jour où tu pourras manger de cet arbre de la connaissance, puisque de tout arbre du jardin, manger du mangeras. Seulement, au kilkel et tachoura, achla paga, bon, je ne sais pas de ça, je veux dire. Lorsque l'homme a mangé cette nourriture qui mélange le bien et le mal. Ça veut dire l'arbre de la connaissance du bien et mal mélangé. On traduit habituellement dans les traductions l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'y a pas écrit du bien et du mal. Il n'y a pas écrit Etzadahat Hatovara. Il y a Etzadahat Tovara, ce qui est mélangé. Et alors, quand on s'est intoxiqué de cela, si on prend l'arbre de la vie qui rend immortel, on reste pour l'éternité comme ça. Alors, c'est clair. Tandis que si on a déjà mangé l'arbre de vie, c'est vrai que c'est l'arbre de vie, mais vous allez deviner, ce qui donne la vie vraie, alors la connaissance n'est pas nocive. Mais si on a atteint la connaissance avant d'avoir atteint la vie, le sens de la vie, le goût de la vie, alors c'est l'intoxication. C'est clair? Non, c'est pas clair. Il ne faut pas que ce soit clair. Mon père, je me concentre plus ici. Donc, il faut d'abord mériter, ici nous avons une indication importante, apprendre ce qu'il faut apprendre pour apprendre la vie, alors après la connaissance n'est pas nocive. Mais si on apprend la connaissance des choses ambiguës, tout mélangé, bien et mal mélangé, c'est une intoxication de laquelle il faut se désintoxiquer. Et en fin de compte, c'est la mort qui désintoxique de ça. C'est pourquoi la Midrash enseigne que la sanction de cela était la mort, parce qu'il aurait risqué d'entrer dans l'éternité, dans l'état de Kilgoul où il se trouvait. C'est clair. C'est-à-dire, la mort est un tikkun de cette preuve-là. Alors, c'est plein de panique, à condition qu'on sache qu'après la mort, c'est là que la vie commence. C'est une autre histoire. Alors, n'ayez pas peur de la mort, ça n'existe pas. C'est une étape du voyage. Ça, de ça, on parlera un autre jour. Mais comme vous êtes jeune, il ne faut pas parler de ça. Vous êtes trop jeune. C'est l'expérience nous montre ça. Il n'y a que les jeunes qui ont peur de la mort. Les vieux, ils sont impatients. Bon, c'est une autre histoire. Vous êtes jeune, alors soyez jeune. On revient au... Enfin, quand ils sont en bonne santé, bien sûr. On revient au... à notre problème. Alors voilà donc, pourquoi je vous ai expliqué ça? C'est parce que dans notre premier verset du chapitre 4, premier verset, il y a un mot qui apparemment aurait été le trop. C'est Vatahar, elle conçut. Ça va de soi que pour avoir un enfant, il faut d'abord le concevoir. Donc c'est que la Torah va nous donner une indication supplémentaire. Il s'est passé quelque chose. De cette connaissance de Adam par Hava et de Hava par Adam, est apparue une réalité que le texte appelle Vatahar, elle conçut. C'est-à-dire une modification de l'identité, Batelet et elle enfanta et Caïn. C'est là la première chose qu'on va étudier. Ce n'est pas la forme habituelle du texte de s'exprimer. Normalement, on attendrait une autre forme. Elle enfanta un fils ou un enfant et elle le nomma Caïn. Or ici, le texte nous parle de façon directe. Et elle enfanta Caïn. Comme s'il ne pouvait pas s'appeler autrement. C'est clair? On va découvrir que Caïn, ce n'est pas un nom conventionnel. C'est son nom d'homme, comme Adam était le nom d'homme à la première génération. Elle enfanta Caïn. Et elle va expliquer tout de suite que ça veut dire Caïn. On va y arriver. Mais je vous signale, pour être un peu plus complet, que certains commentateurs, en particulier Nahmani, pour bien indiquer qu'il ne faut pas passer sur la difficulté, disent, c'est comme s'il y avait écrit elle enfanta un fils à la nomma Caïn. Voilà la précision, c'est comme si. Mais c'est pour bien montrer que ce n'est pas comme si, sinon on n'aurait pas dit c'est comme si. L'expression et elle le nomma, comme nous l'avons d'ailleurs dans le verset précédent, la nomination de Chava. Je ne sais pas si on l'a étudié au début de l'année, mais l'ikro beshev, ça veut dire donner une destination. Quand on donne un nom à quelqu'un, on lui donne un projet d'identité. Je crois que nous avons parlé au début de l'année de cela. Alors, je vous rappelle brièvement, c'est pas bien rentrer dans les détails. Alors, si l'expression était « elle eut un fils et elle le nomma Caïn », ça veut dire « elle lui donne une vocation », mais là, l'expression est autre. Il naît comme ça, c'est son identité. Et elle dit, fin du verset, « Kaniti chez Hachem »« J'ai acquis un homme grâce à lui ». Voilà. Caïn, ça veut dire « celui qui s'appelle acquis ». Quand il a conscience de lui, il a conscience de lui comme étant déjà acquis. Alors c'est une manière d'avoir conscience de soi que je voudrais vous décrire. Et comme d'habitude, il faut que je vous prévienne. C'est un profil d'identité qui va se dévoiler à nous. Et il faut arriver à le comprendre, même si nous ne sommes pas comme ça. Je dis souvent cela lorsqu'on me pose une question par rapport au christianisme. Puisqu'on est en culture occidentale, c'est imprégné de christianisme, et que des juifs n'arrivent pas à comprendre comment les chrétiens pensent. C'est un problème de méthode, mais je crois important. Très souvent, des données de la culture générale d'imprégnation chrétienne nous apparaissent comme invraisemblables. Et alors les juifs se demandent, mais enfin, quelle tête ils ont ces chrétiens? Alors, je dis toujours, faites attention, un juif ne peut pas comprendre de cette manière, il est fait autrement. Mais pour un chrétien, c'est l'évidence. C'est une autre prise de conscience. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Si ça passait que par l'intelligence, on serait dans une impasse. Ça voudrait dire que la Torah est raciste. Ça voudrait dire que la Torah suppose que seuls les juifs sont intelligents. C'est du racisme, ça. C'est pas vrai, ça passe pas par l'intelligence. C'est une prise de conscience de l'âme plus profonde que l'intelligence. Vous savez, un chrétien peut être très brillant comme biologiste, comme chimiste. Comme historien, toujours historien, je ne sais pas, ça touche les sens humains. Enfin, mathématicien, normal. Dès qu'il commence à parler de religion, c'est le délire. Et pourquoi? Parce que ça ne passe pas d'abord par l'intelligence. Est-ce que c'est clair? Parce que si ça passait d'abord par l'intelligence, ça voudrait dire encore une fois que nous, les Juifs, nous sommes des racistes. Ça veut dire que nous supposons qu'à part une infime minorité, les Juifs, l'humanité entière, sont des imbéciles. Et c'est pas vrai. Ils sont pas imbéciles. Ils sont goïbes, différents. Ça veut dire qu'ils sont différents. Du point de vue de l'âme, pas du point de vue de l'intelligence. La logique d'Aristote, c'est la logique d'Aristote. Non, j'enlève Aristote. La logique, c'est la logique. La preuve, c'est qu'il y a quand même des chrétiens qui sont prix Nobel. Ne croyez pas qu'ils sont des juifs. Eh bien, je pense que... Bon, je pense que c'est clair ce que je veux dire. Ça veut dire que cette évidence de la foi, ça passe pas d'abord par l'intelligence. Sinon, encore une fois, j'ai pas fait exprès, ça voudrait dire qu'à part les juifs, tous les autres, ma foi, ne seraient pas intelligents. C'est faux. C'est une prise de conscience de soi et des évidences qui sont corollaires du problème de la destinée humaine, qui sont d'une toute autre manière. C'est un peu l'exemple que nous allons avoir avec Caïn. C'est clair ce que je dis là ? Peut-être on y reviendra un jour, parce que c'est le grand échec de toutes les théologies rationalistes qui disent la vérité religieuse, ça passe par la raison. La raison de qui ? Vous comprenez ma question ? Alors, c'est vrai ? La raison du plus fort, qui est toujours la pas meilleure. Et que nous ayons besoin de la raison pour exposer ce que l'âme dit de la foi, c'est sûr. Que pour étudier la Torah, on a besoin de la pensée, de l'intelligence, de la raison, c'est sûr. Mais c'est un outil. C'est pas avec la raison qu'on explore la vérité de la Torah. Sinon, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a que les juifs qui sont juifs ? Vous avez remarqué qu'il y a que les juifs qui sont rabbins ? ça c'est une blague anti-juive. Les juifs prennent tous les métiers, même rabbin. Qu'est-ce que vous avez demandé ? Voilà, on est en plein dans le problème, par la conscience, Habibi. J'ai eu un professeur de physique qui était un athée. Alors il nous disait, un athée, mais j'ai de la physique. Il nous disait, l'œil, c'est une lentille qui voit. Il y avait un petit juif qui sortait de la thorax des mois. Il dit, mais monsieur, l'œil ne voit pas. C'est l'homme qui voit à travers l'œil. L'œil, c'est pas une lentille qui voit, une lentille ne voit pas. Vous voyez les pièges du raisonnement apparemment rationnel, c'est de la pirouette. Ça veut dire l'œil est une lentille qui voit, une lentille ne voit pas. C'est l'âme qui voit à travers l'œil. Je me rappelle aussi d'un enseignement de Bergson contre les matérialistes. Au moment où on avait inventé le téléphone, les matérialistes ont dit, ben voilà, ça explique le cerveau. Le cerveau, c'est un appareil téléphonique, et il y a des connexions entre les neurones. Pas personne leur a dit, vous oubliez un téléphoniste. C'est la téléphoniste qui prend conscience. C'est pas la raison. La raison, c'est un outil. Et c'est clair. Même qu'elle s'appelle Madame Nechama.
Mais comment est-ce qu'on peut comprendre qu'apparemment, il n'y aurait que le juif qui aurait la possibilité, avec une. Ça, pas toujours, mais qu'il n'aurait pas la possibilité de comprendre et de ressentir et que la conscience travaille quelque part. Comment c'est fait que le non-juif, lui, n'a pas cette possibilité de.
Voilà, alors premièrement, on a appris, en tout cas, que ce n'est pas par l'intelligence.
Non, d'accord. Alors,
donc, ta question est comment ça se fait, il n'y a que les juifs qui sont juifs.
Oui, c'est ça ta question.
Bon. Mais, c'est pourquoi il faudra que nous atteignions, on atteindra. Un niveau où n'importe quel homme, juif ou pas juif, peut être sadique. Sinon, c'est injuste. Effectivement, on va le découvrir. Un goy n'a pas besoin d'être juif pour avoir son rôle là-bas. Mais il faut bien comprendre que, au fond, je vous donne une analogie un peu brutale. Si je dis la rose, c'est une fleur, j'ai pas le droit de dire il n'y a de fleur que la rose et la marguerite. C'est une autre forme de fleur. Une autre fleur. C'est parce que j'ai commencé par dire il n'y a que la rose qui est fleur. Que j'ai plus de place pour la marguerite. Alors, c'est pas une honte pour la marguerite de ne pas être rose. Elle est fleur, mais marguerite. C'est clair ? Bon. Alors, penser l'essence de la fleur en tant que rose, c'est un autre parfum que le penser en tant que marguerite. Alors, un goy est un goy, un juif est un juif. Maintenant, il y a la possibilité pour un goy de devenir juif. Seulement, et je crois que c'est la seule identité qu'on acquiert, un juif ne peut jamais devenir goy. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Pour pas. Mais un goy peut devenir. Je vais donner un autre exemple. On ne devient pas français. Attends, je vais finir la phrase. Parce que on ne devient pas français. Mais juifs, on peut devenir. On devient citoyen français, c'est autre chose. Ça ne veut pas dire qu'on est devenu français. une citoyenne d'État français. À la dixième génération, le descendant sera un Français d'origine juive lointaine, mais pas au niveau de la génération dont on parle. L'identité juive est la seule qu'on peut acquérir. C'est le problème d'Israël. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au point de départ, le Créateur a jugé qu'il y aurait des hommes comme ça, des hommes comme ça, des hommes comme ça, des hommes comme ça. Il n'y a aucune honte à être homme comme ça plutôt que comme ça. La Gemara, c'est... La Kabbalah, bien sûr, et je cite la Gemara dans Rosh Hashanah. Vous allez voir à quelle référence je... C'est poser la question, mais comment se fait-il que les créatures sont ce qu'elles sont? Pourquoi un arbre, c'est un arbre, une pierre, c'est une pierre? Et pourquoi un goy, c'est un goy, un juif, c'est un juif? Ça veut dire que, d'une certaine manière, c'est Dieu qui a décidé, toi tu seras comme ça, tu seras comme ça, mais quand même, la Gemara va nous dire une chose étrange. Aucune créature n'a été créée avant que Dieu lui ait demandé, voilà, ce que je peux voir pour toi, tu es d'accord ou pas? Si elle n'est pas d'accord, elle m'est. Alors un jour j'ai expliqué, mais ça a l'air d'être une blague, mais malheureusement c'est pas. Pourquoi il y a si peu de juifs dans le monde? Mais c'est parce qu'il y a très peu de méchants mots qui ont ce courage-là. C'est pour ça qu'il y en a si peu. Ça veut dire qu'il y a le courage de naître juif. Ça veut dire que, d'une certaine manière, et il y a d'autres raisons, on nous a massacrés sans arrêt, c'est pour ça qu'on est escapés de l'Occident. Il y a une autre manière de poser le problème. Ça veut dire, mais c'est une chose qui nous dépasse. Y aurait-il, semble-t-il, une sorte de liberté avant la naissance de choisir ce que l'on veut être? Et on est et on oublie qu'on avait choisi d'être ce qu'on est. Il y a des gens qui se sentent mal dans leur peau jusqu'au moment où ils arrivent à se sentir bien dans leur peau. Je ne sais pas comment dire. Et des fois, on met toute la vie pour ça. Mais c'est à partir du moment où on coïncide avec soi-même qu'on commence à vivre. Et le problème, c'est d'être le mieux possible ce qu'on est. On ne sera jamais autre chose. Ce que la Gemara indique ici, c'est que d'une certaine manière, la Neshama a choisi, en tout cas elle a accepté ce que Dieu lui proposait. Et ceci dit, donc si quelqu'un est né goy, eh bien il est né goy. Et le fait de vouloir être juif, c'est s'opposer à la volonté du Créateur. C'est pourquoi le Beit Din doit vérifier si c'est réel. Sinon, eh bien c'est une takala, parce que le Créateur a décidé qu'il naisse comme ça. Il peut être bête noire. C'est-à-dire tzaddik au niveau universel. Okay. Et alors on étudie la question. Et si on s'aperçoit qu'effectivement, c'est un cas de guiour authentique, on fait une fête. Et tu as compris le problème. Mais a priori, ce n'est pas nécessaire.
Qu'est-ce qu'on parle de guerre. Je vais donner un exemple précédemment. Pour qu'on parle juif, au point que la rose à la marguerite.
Oui.
Et vous avez dit juste après, un goy peut se convertir. Il a la possibilité de se convertir.
Oui.
Et si je reprends votre métaphore, c'est pas possible qu'une marguerite devienne rose?
Non, ça veut dire qu'il se dévoilera et il y a une opération spirituelle, chirurgicale spirituelle. C'est en réalité une rose qui se prenait pour une marguerite. Mais vous savez qu'il y a une explication comme ça. Il y en a d'autres, il y a une explication comme ça. C'est que, parce qu'on est vraiment devant un mystère, quand un goy devient juif, alors on explique. Sa Neshama était juive, prisonnière des goyim. Moi je pense personnellement, Yosef sait que je ne suis pas complètement d'accord avec ça, je pense personnellement qu'on peut être un goy authentique, vraiment, pas du tout une rose marguerite. Une marguerite est devenue rose. Il faut du temps. Et il faut du temps. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire du Erev Rav. C'est l'histoire du Erev Rav. À la sortie d'Égypte, ne sont pas sortis que les Hébreux. Sont sortis aussi toute une foule d'hommes et de femmes qu'on appelle le Erev Rav, littéralement c'est le grand mélange, la grande foule, la Safsou, qui ont profité de la sortie d'Égypte des Hébreux et que Moïse a intégré en Israël. Et on a eu des pépins, des histoires de pommes sans arrêt. on a eu des pépins avec eux. Vous connaissez l'histoire de la foi du Vaudor, toute la suite, ça vous étudiez autre part. Et pourtant c'est Moïse qui a décidé, donc il savait ce qu'il faisait. Mais alors, quelle était la difficulté? C'est que les Hébreux avaient eu 6 générations d'éducation des patriarches. Depuis Abraham jusqu'à Moïse, il y a 6 générations. Alors que ces goïms qui étaient en Égypte, qui ont tout de suite, d'un coup, compris que c'est la foi d'Israël. Yetziat Mitzrayim, Geoula. Alors Moïse a dit, ils sont d'Israël dans le principe. Il faudra les former. Mais puisqu'ils coïncident avec la foi d'Israël, ils ont connu qu'est-ce que c'est Galout. Et ils veulent Geoula. C'est Israël. Seulement, qu'est-ce qu'il leur manque? Il leur manque ces 6 générations d'éducation. Et c'est pourquoi il faut les éduquer. C'est pas n'importe qui a décidé de sortir avec Moïse. La preuve, c'est 4/5 des Hébreux ont préféré rester dans leur yeshivot d'Égypte. Okay. Oui, ils avaient des yeshivotes là-bas, on le sait, du Midrash. Et c'est le fait qu'effectivement, il y a un sroute particulier de ces goïms du Hélévral, puisque des Hébreux en béton armé sont restés en Égypte, alors que des goïms sont venus en Israël. Et on vit cela. Ça veut dire, d'une certaine manière, ils sont, d'une certaine manière, dirigés vers l'identité d'Israël, seulement il faut que le Bédine vérifie. Parce que je vais vous raconter deux histoires de la Bible. Une, c'est Ruth. Elle vient de Moab. Bon, le Bédine de Boaz a décidé Kacher. Une autre, c'est Timna. Eh bien, elle, le Bédine des Avot, ont décidé pas Kacher, pas question. Okay. Qui vient quand elle vient? Quand il vient? Est-ce que c'est Ruth ou est-ce que c'est Timna? On ne peut pas savoir à l'avance. Il faut faire radioscopie. Vous avez compris. Okay. Ça veut dire, donc, c'est possible, mais ce n'est pas évident. Pardon. Qu'est-ce que vous dites?
Oui, j'en ai. Vous avez dit donc que le Bédine, pourquoi on passe devant le Bédine? Pour bien vérifier si la conversion ne repose pas sur un objet, sur un intérêt, etc.
Je n'ai pas dit ça, c'est toi qui l'as dit. Non. C'est du quoi que j'ai voulu dire, c'est pas ce que j'ai voulu.
C'est parce que vous avez dit. Alors, j'ai pas compris.
Ça, oui, je vois. C'est-à-dire, tu entends des voix. Tu ne dois pas être du pays de Janda. Voilà le problème. D'abord, il y a le Mechaner qui est chargé de préparer cette conversion et qui lui doit se faire une idée de quel dossier il s'agit. Et même si c'est pour une conversion, ça peut aussi être kasher. Chaque cas est un cas particulier, on l'étudie. Mais le Dayan, lui, doit savoir s'il a affaire à un processus de conversion authentique, que c'est vraiment un goy qui peut devenir juif. Et ça, il faut voir à côté, je peux savoir ça. C'est autre chose que des questions de din ou de halakha. Est-ce que tu as un intérêt? Et de quelle sorte d'intérêt? Et même si ça commençait par un intérêt, est-ce que ce n'est pas devenu désintéressé? Tout ça, c'est la chaklavetaria du procès. Mais ceci dit, il y a un shikulda, havada du dayan, et il peut, sans avoir à s'expliquer, dire oui ou non. Il sait si c'est possible. Sinon, ce n'est pas un dayan. Voilà, c'est ça que je veux dire. On ne joue pas avec ça. Vous savez, il y a des lois pour la culture des petits pois. Il y a aussi des lois pour la distribution des âmes et des hommes. Les Sfaradim disent âme et les Ashkenazim disent homme. Mais c'est la même chose. Faites bien attention à ça. Je veux dire, dans la force des choses, il arrive que, bien que je ne suis pas fait pour ça, il arrive que je sois obligé de m'occuper de dizaines de dossiers de ce genre. Eh bien, je dois vous dire, ce n'est pas évident a priori, que n'importe qui ouvre un dossier avec moi, il va passer au Bédine, c'est pas évident. Il y a des dossiers que je referme et que je refuse, et sans avoir à donner d'explication. Il y a des dossiers où j'hésite, alors je prends conseil, et ça dure du temps, jusqu'au moment où on se dit, bon, on prend le pari ou on le prend pas. Ne croyez pas que c'est simple, ces choses-là. Voilà, c'est clair ce que je dis. Ce que je voulais dire avant de prendre une autre parenthèse, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut bien savoir que cette prise de conscience de soi, le celui que je suis, c'est au-delà de la pensée, l'intelligence, la raison, qui sont des outils. Encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit, je crois que c'est très important. Si vous pensez que la vérité de la Torah, ça passe d'abord par l'évidence rationnelle, ça veut dire que l'immense majorité des hommes sont délirants. C'est parce que ça ne passe pas par l'intelligence. D'abord, je dis bien d'abord. Ensuite, il faut beaucoup d'intelligence pour étudier, c'est sûr. C'est clair? Je vais vous lire la définition de l'Apicoros. C'est celui qui croit que la vérité, c'est l'intelligence. C'était la philosophie d'Épicure. Et c'est de Épicure que vient le mot de l'Apicoros. Que le bien suprême, c'est la pensée. Or, la pensée, c'est important pour la Torah. Mais c'est un outil. Il faut d'abord la bonne volonté de la Neshama. Alors si, parce que si l'évidence religieuse passait par la pensée, encore une fois, nous serions des racistes. Et je ne sais pas si vous rendez compte à quel point tous ces rationalistes qui disent c'est la raison, c'est la raison, c'est la raison, en général se prennent pour des démocrates, mais c'est des racistes. Puisqu'ils mettent tous les goïms dans la déraison. C'est clair ce que je dis? Alors réfléchissez. Je pense que vous avez découvert ici quelque chose d'important. Réfléchissez à ça. Qu'est-ce que tu veux demander? Bien que tu aies compris. Bien. Alors je reviens à, si c'est clair, tout
le monde. Non, justement. Si c'est le Dayan qui décide en fin de compte de la conversion ou pas, Il y a personne qui demande pourquoi une analyse rationnelle de savoir si ça repose sur un objet, à qui elle appartient.
C'est toi qui appelles ça analyse rationnelle, c'est une analyse halakhique. Halakhique, ça veut dire quelqu'un, voilà, on va prendre un cas concret, je vois que ça vous préoccupe. Quelqu'un vient et dit, voilà, j'ai découvert qu'Israël c'est la vérité. Le judaïsme, la Torah, quelle merveille. Et alors, on lui demande insidieusement, tu connais pas un juif ou une juive, quoi, comment ça fait. Alors des fois, ils mentent, ils disent non. Alors, on fait une enquête, il y a un juif ou une juive. Ça change rien. Ça peut commencer comme ça et ça peut être cachère. Parce qu'après tout, ils ont une femme goy qui veut devenir juive parce qu'elle a aimé un juif. Eh bien, c'est pas rien qu'elle a aimé, c'est un juif. Ça veut dire que derrière, elle aime le peuple juif. Il faut vraiment se rendre compte de ça. Elle considère qu'un juif, c'est aimable. Alors, ça commence par là. Okay. Et alors, on établit. Après, je vais raconter une petite historienne. On établit ici, même si au début il y avait, du point de vue de la halakha, des empêchements, mitok sololishma balishma, mais ça ne suffit pas. Est-ce que c'est pour elle? Est-ce que c'est pour lui, les juifs? Je connais des gens, des goïms, des femmes et des hommes, qui ont un amour éperdu du judaïsme, d'Israël, du peuple juif, de la Torah, mais qui ne peuvent pas être juifs. Ils sont, en yiddish, on appelle ça la yiddishkeit. Ils sont allergiques à la yiddishkeit. Parce que pour être homme ou femme de la Torah, il faut vivre en juif. Et juif, ça existe. C'est une manière d'être homme très spéciale. Il y a des goyim pour qui c'est pas fait. J'ai rencontré une fois, mais d'abord la petite anecdote en juif. Et après, vous me rappelez que c'est l'histoire d'un curé. Il y a une femme, une américaine, une goya, qui est tombée amoureuse d'un bachour yeshiva en Amérique, lequel le lui rendait bien. Alors, il se voulait du bien. Quoi. Et alors, ils sont venus en Israël, devant le Bédine de Jérusalem, pour savoir si on pouvait régulariser leur problème. Elle était prête à prendre le judaïsme, le mitzvot, Kedin ou Kedat. Et alors, on les a séparés. Elle a appris dans un Betrivka ici. Elle est devenue une juive orthodoxe, absolument. Et un jour, elle est.